Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Weekly. Je suis comme d'habitude avec Steve.
Salut.
Oui, Steve qui a la, qui a la forme.
Ouais, la forme, on m'a arraché dedans hier, je suis complètement dans un état pathétique. Mais bon, c'est pas grave.
D'accord, mais t'arrives à parler.
À peu près, ouais.
Oh, bon, non, ça va.
Ça va. T'es pas en train de bailler, ça va aller.
Non, mais je baillais pas en fait, je faisais sans. Point, point, point.
Très bien, c'est très fort. Donc, un épisode un peu spécial aujourd'hui, il faut le dire.
Oui, c'est vrai. Avec des doubles solo reviews.
Oui, des doubles solo reviews, des solo doubles. Tu nous expliqueras le principe tout à l'heure, parce que j'ai toujours pas compris.
Alors, le principe, c'est simple. Il y a une double review, classique, et puis après, il y a des reviews solo, classiques. Mais cette fois, les reviews solo seront faites à deux. Donc, des solo double reviews.
Oui, mais donc c'est des doubles. Enfin bref. Donnez-nous notre avis sur sur la nouvelle manière de faire. Enfin,
ou
c'est
plutôt
pas la nouvelle...
votre avis, parce que notre avis, on le connaît déjà.
Ah oui, c'est vrai. On raconte. Bon, c'est pas grave. On
ça commence bien cette semaine, ça commence
ouais,
bien.
Oui, ça commence très bien. Numéro de la semaine, tout à fait. Donc le numéro 48, Fantastic Four, volume 1, numéro 48.
Mais qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est la première apparition du Silver Surfer.
Qui?
Le Silver Surfer, le mec à la planche, tout doré là.
J'ai jamais entendu parler.
Ah oui, mais il a servi pour le film Fantastic Four numéro 2, par exemple. Que tu pourrais ne jamais avoir vu. Là, je t'en voudrais pas.
Oui, je ne l'ai jamais vu et je ne compte jamais le voir. D'ailleurs, je n'ai pas vu le premier et je ne compte jamais le voir.
Ah d'accord. D'accord, t'es comme ça, toi.
Ah oui, non, c'est bon. J'ai vu des petits bouts, ça m'a suffi et ça m'a donné envie de vomir et donc voilà.
Donc voilà, donc première apparition d'un personnage qui marquera beaucoup d'ailleurs les fans français, puisqu'il est apparu dès le premier Fantasque, si je ne m'abuse.
Non, strange.
Ah, il était pas dans Fantasque, le surfeur?
Non, parce qu'ils ont publié les premiers épisodes dans Strange.
Eh bien voilà, très bien, bravo Monsieur Onebony, Mister Onebony. bon bah c'est tout, bah alors en tout cas ça aura quand même marqué les lecteurs français parce que
il y aura eu quand même un épisode spécial uniquement pour la France par Mobius.
Tout à fait, dans les Nova. 25 et 26 d'ailleurs.
Que les Américains ont mis vachement de temps à avoir.
Exactement. Bon, eh bien voilà. Et je te laisse la parole pour ton numéro.
Alors, moi, ça va être un peu plus récent, c'est le Wolverine volume 2, numéro 48. Au scénario, Larry Hama, Marc Silvestri au dessin, Dan Green à l'ancrage. Donc, c'est la période des années 90. Et
donc, c'est Larry Hama, forcément.
Voilà, c'est Larry Hama, quoi. Et c'est l'épisode qui était le début d'un arc en 3, qui culminait au numéro 50, numéro anniversaire, bien sûr, dans lequel Wolverine commençait à s'apercevoir que les souvenirs qu'il avait, à l'époque, déjà qu'il n'en avait pas beaucoup, étaient faux. C'était des souvenirs qui lui avaient été implantés. Et que donc, par exemple, Silver Fox n'était pas vraiment morte et qu'ils n'avaient pas vraiment partagé leur vie ensemble, etc.
D'accord. Mmh. Donc c'était donc, vraiment le début de la quête du passé de Wolverine.
Ouais, en quelque sorte. On avait eu quelque temps auparavant le projet Arme X dans les Marvel Comics Presents, par Barry Windsor Smith.
Oui, le fameux Weapon X, quoi, en fait.
Voilà. Et puis ensuite, on a eu ça qui nous donnait un peu plus d'éléments. Et puis, bien des années après, nous avons eu ses origines réelles. Voilà, c'était un turning point dans la vie de Wolverine.
D'accord.
Bien. Sur ce, on passe aux news.
Et c'est parti. On commence nos news avec, cette semaine, il n'y a pas beaucoup de news. Il y a beaucoup de comics, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les comics, donc très peu de news, ça tombe bien, d'ailleurs. Et la seule news que j'ai retenu de cette semaine. j'allais dire n'importe quoi, donc voilà. Autant aller jusqu'au bout. Reed Johnson, toujours lui, nous annonce qu'il devrait y avoir plusieurs titres Justice League prochainement, dont un Justice League International, qui reviendrait, voilà, en mensuel, en plus.
Alors, espérons que ce soit Giffen de Madeis, ce serait magnifique.
Alors, sont-ils toujours sur Booster Gold? Je ne sais même pas.
Dan Jurgens revient au numéro 44.
D'accord.
Tu l'avais annoncé déjà il y a longtemps, à l'époque, au moins Flashpoint.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, effectivement. On s'était rendu compte d'ailleurs qu'il en était parti pendant quelques temps, on l'avait même pas vu. Et Reed Johnson annonce également Justice League of the Future.
J'adore le titre.
Alors, est-ce que c'est un titre de projet? Ou est-ce que c'est le titre final de la série? Je ne sais pas.
Pitié, dites-moi que c'est juste un titre de travail, quoi.
Ouais, en tout cas, ça devrait se dérouler dans la continuité de Batman Beyond. Hmm. D'où le titre.
Voilà. Ce qui est intéressant, ça veut dire que Batman Beyond rencontre du succès puisqu'ils vont capitaliser sur cette timeline et faire une deuxième série dans cet univers.
Ouais, ce qui est étonnant puisque il y a quelques mois, rappelle-toi, je ne donnais vraiment pas cher de Batman Beyond.
Mais après la mini-série, on a la série régulière Batman Beyond, mais apparemment ça marche puisqu'ils veulent en lancer une deuxième. Donc, c'est cool de voir que des choses comme ça marchent et que finalement Batman Beyond a toujours du succès, même longtemps après sa diffusion à la télé.
Et pour boucler la boucle, est-ce que dans quelques années on aura un dessin animé tiré de cette Justice League dans l'univers de Batman Beyond?
Ah, qui sait, avec DC, tout est possible.
Eh ben c'est tout pour les news, et puis on a beaucoup, beaucoup de reviews.
Mais oui, c'est avant de passer aux reviews, on va faire un petit point sur la Comic-Con, bien sûr, du 30 juin au 3 juillet 2011, bien évidemment, Palais des Expos par Énorville-Peinte, ça vous le savez déjà, mais on vous le répète.
Oui.
Et puis, bien sûr, Jescott Campbell en invité d'honneur.
Quand même. Voilà, le seul, l'unique, le vrai, vous pourrez le toucher dans la limite du raisonnable. Et surtout lui demander peut-être des dessins, des petits sketchs, des petites signatures sur vos couvertures.
Et puis la Comic-Con nous annoncera les premiers invités dès la semaine prochaine.
Donc stay tuned, comme on dit. On les annoncera bien sûr ici dans le podcast. Mais voilà, ça va tomber la semaine prochaine.
Qui rencontrerez-vous dans la Comics Alley?
La fameuse Comics Alley. À part nous, bien sûr. Non, d'ailleurs, est-ce qu'on sera vraiment dans la Comics Alley?
Nous ne serons pas dans la Comics Alley.
Nous ne serons pas dans la Comics Alley. Alors, ça s'appelle comment notre allée, s'il te plaît?
Je ne sais pas.
Voilà, eh bien...
Je n'ai pas regardé le plan.
Grande question. La star, je pense, Star Alley...
Hollywood Boulevard, soyons simples.
Oui, je pense. Bah, de toute façon, je compte bien laisser mon empreinte de patte ou d'oreille sur le site, quoi, quand même.
Oui, et non pas l'empreinte de ta queue. De lapin.
Voilà, très de bien. Lapin. De lapin, bien sûr. De lapin. Mais tout à fait. La fameuse queue de lapin qui porte bonheur en plus.
Mais à quoi pensais-tu?
Non, la patte de lapin d'ailleurs.
Ouais, c'est la patte. C'est pas la queue, c'est la patte.
Voilà. Bon.
C'est difficile, hein. C'est très difficile aujourd'hui.
Non, mais oui, bien sûr. Alors, donc.
Donc, la Comic-Con. Bah, venez nombreux. Et puis, n'hésitez pas à réserver vos places ou à acheter vos places d'avance.
Oui.
Ça vous permettra d'éviter de faire trop la queue.
Ah ben, oui, surtout, le jour J, venez. Venez
nombreux,
voilà. Ouais,
avec c'est le mot que tu cherchais.
Et rappelons-le aussi, Comic-Con, Japan Expo, bien évidemment.
Bien sûr, les places pour rentrer à la Comic-Con permettent d'entrer aussi à la Japan. Voilà. Bien sur ce, on va attaquer notre double review de la semaine, la vraie.
La vraie double review.
La seule. Ouais. Mighty Thor, number one. Matt Fraction, Olivier Coipel, Marc Morales. Des gros noms quand même.
Ouais, non mais c'est vrai que les crédits donnent envie.
Alors, c'est un relaunch qui n'en est pas réellement un puisque la série Thor continue, mais juste elle change de titre et elle s'appelle de nouveau Journey into Mystery. Donc ça devient très compliqué hein, quand même puisque.
Alors, qui rappelle qui est au scénario de Journey into Mystery du coup.
Kieron Gillen.
Voilà, Kieron Gillen qu'on trouve aussi sur Uncanny X-Men, si je ne m'abuse. Voilà,
c'est ça. Et donc, pour suivre Thor, il faut commencer dans Journey into Mystery, puis dans Thor, puis dans Journey into Mystery, puis dans Thor, puis dans Thor, puis dans Thor encore, et dans Journey into Mystery.
Ouais, tu m'as perdu totalement.
Et oui, je te fais la liste des volumes.
D'accord.
C'est bien compliqué. Mais
c'était la vraie, voilà. C'était la vraie en plus, tu rigolais
ah,
oui. pas,
ce n'était ah, pas. Mais non, je ne rigole pas. Non. Et je ne rigole jamais moi d'ailleurs. Et donc là, on a Thor qui devient Journey into Mystery, qui va se concentrer un peu plus sur les Asgardiens et toute cette grande famille. Et donc, pour avoir un titre plus centré sur Thor, et surtout à l'occasion de la sortie du film, on nous fait Mighty Thor Number One. Donc une deuxième série sur Thor. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien...
Déjà...
On va faire le pitch.
Ouais, déjà le pitch, alors...
Alors ça commence avec un prêtre qui fait son office à Broxton, Oklahoma, bien sûr. Et qui se demande, avec ces dieux qui marchent sur Terre, ces dieux asgardiens qui foulent leur sol et qu'il rencontre tous les jours et qui viennent boire un café avec eux, mais où est la place de Dieu, le grand Dieu, le Dieu avec un G majuscule?
Le vrai Dieu.
Enfin, avec un G, pardon, si avec un D plutôt, puisque G pour God, enfin, pardon.
Oui. C'est...
Donc, voilà, c'est un petit peu les craintes des gens des gens religieux, en tout cas, de cette petite ville de Broxton. De son côté, on a le surfeur, qui cherche toujours à nourrir Galactus et qui ressent la présence d'un monde qui pourrait apporter énormément d'énergie à Galactus et qui permettrait d'arrêter un petit peu, de mettre en stand-by un peu cette quête de nourriture constante, puisqu'à peine Galactus a terminé planète, qu'il a déjà de nouveau faim et que le surfeur doit lui en retrouver une autre. Avec celle-ci, il pourrait mettre un terme à sa faim pendant un bon moment. Et enfin, on a Sif et Thor. Sif qui a arrêté de faire la vaisselle.
Oui, arrêté de siphonner aussi.
Plus le ménage que la vaisselle, hein, puisque faites votre vaisselle aussi, fait, ça va pas avoir bon goût.
Très bien, Steve, merci pour la publicité.
Oui, oui. Bon, je peux, c'est pas grave, c'est pas comme si on touchait des royalties.
Non, malheureusement.
Qui veulent essayer de sauver les racines de l'arbre monde.
Oui, Yggdrasil.
Et qui vont plonger pour aller au centre de cette espèce d'arbre monde, je n'ai pas très bien compris, pour essayer de le sauver.
Oui, non, moi non plus.
Et à partir de là, moi j'étais largué.
j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce moment numéro, on va le dire clairement. J'ai été complètement largué. J'ai même pas reconnu d'ailleurs l'ambiance habituelle de Thor, avec ces espèces de costumes, ils vont dans le...
Bah, ils sont sous l'eau, donc ils ont un scaphandre.
Oui, voilà. Mais moi, ça m'a fait penser limite aux X-Men, Révolution de l'époque Claremont, où ça partait d'un seul coup dans une toute autre direction. Et là, j'ai l'impression de voir Thor partir dans un tout autre trip, et j'avais même pas l'impression de lire du Thor, honnêtement. Je sais pas, c'est un espèce de truc bizarre, et j'ai rien compris. Mais je sais pas ce que Fraction a voulu dire, quoi.
Ce qui se passe à la fin, c'est que Thor est blessé. Mais sa blessure est bizarre parce qu'elle brille. Et donc ça l'inquiète.
Et il y a le surfeur.
Et le surfeur arrive près de la Terre. Alors, franchement, le gros problème avec ce numéro, c'est que bon, c'est censé être un sorte de relaunch, en tout cas un numéro 1. C'est censé faire appel, pour rappeler les gens qui auront été voir le film et qui diront « Oh putain, j'aime bien le personnage et j'ai envie d'en lire ». Donc ils se disent « Un numéro 1, bah vas-y, je commence par ça ». Ouais, bah alors là, bonne chance.
On comprend rien.
Non, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est absolument pas un point d'entrée. Enfin, je veux dire, quiconque aura vu le film va voir un Loki enfant, va rien comprendre.
Oui. Non, mais même moi, au début, je me suis dit attends.
Même dans la page de récap, je sais même pas si c'est précisé que Loki est revenu.
Je suis pas certain. Enfin, si qu'il est revenu, oui, mais pas sous cette forme-là, peut-être.
C'est complètement dingue de voir un truc aussi incompréhensible. Alors, par contre, c'est beau. Moi, franchement, j'ai trouvé ça super beau.
J'ai trouvé ça décevant comparé à d'habitude. Je préfère nettement Olivier Coipel sur
Straczynski,
par exemple.
Ah oui, aussi.
Ou même sur le Thor de Straczynski. Que là, j'ai pas reconnu du tout les ambiances habituelles. Alors, faut dire que ils n'étaient pas dans les mêmes types d'endroits, quoi. Mais non, il y avait même des cases où ça manquait de fond. Alors, tu vas me dire, oui, l'océan, d'accord, ouais, mais il n'y avait pas que ça. Je sais pas, moi j'ai vraiment été déçu là d'Olivier Coipel là-dessus, vraiment.
Moi, niveau partie graphique, ça remplit parfaitement le contrat, c'était vraiment ce que je m'attendais, c'est vraiment super beau. Mais alors, par contre, c'est au niveau du scénario que je piche que dalle. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Enfin, franchement, voilà, on les a vus plonger, ils sont attaqués par un truc, ils veulent sauver les racines de je sais pas quoi, pour remettre Asgard d'aplomb, machin, parce que Thor a coupé l'arbre en deux dans les derniers pré-épisodes que je n'ai pas lu. Mais voilà, je me suis dit, un numéro 1, ça va être un point d'entrée, quoi.
Non, là, c'est plutôt un point de sortie, pour en ce qui me concerne, hein, parce que je n'ai aucune envie de lire la suite. C'est-à-dire, je m'en fous, mais...
Moi, le seul truc qui m'attire, c'est le fait de me dire que, on a compris, le surfeur va sûrement avoir envie de bouffer Asgard, enfin, va proposer à Galactus de bouffer Asgard. C'est pas la Terre qui va venir dévorer, puisqu'on sait très bien que le surfeur va pas protéger la Terre. Mais à part ça, donc une confrontation Thor le surfeur et Thor Galactus, ça peut être sympa, mais c'est le seul truc, quoi.
La réflexion sur Dieu à la rigueur, avec l'opposition entre les dieux asgardiens, qu'est-ce que Dieu, le surfeur qui arrive, donc forcément le surfeur c'est un petit peu le Messie qui arrive sur sa planche. Je veux dire, bon, il y a ça peut-être qui est intéressant, mais sorti de là, on comprend rien.
Mais disons qu'entre ça et puis Fear Itself, Fraction, là, me déçoit, mais totalement.
Mais je pense pas qu'il soit fait pour écrire c'est dommage parce que sur les one-shots, il était bon.
Ah, sur les one-shots de Thor, il était excellent.
il était bon. Et là, de plus en plus, je me dis, bon, il est pas fait pour Thor, il est pas fait pour Captain America. Voilà, je sais pas.
Il est moyennement fait pour les X-Men.
Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver sa place, quoi, tout simplement.
On verra bien si la série continue bien ou pas. Donc en tout cas, je pense que vous l'aurez compris, pour nous deux,
C'est un pass.
un gros pass, ouais.
Un pass, et malheureusement, je ne sais pas si je vais suivre du coup la suite de cette ongoing. À moins qu'on me raconte qu'il y a des choses extraordinaires qui s'y passent, mais.
Ouais, bah moi aussi, je lirai des reviews avant.
Ouais, voilà.
Bref, un gros pass, quoi.
Et donc c'est parti pour notre première double solo review avec notre invité Sam.
Salut. C'était pas une solo double ou une double solo?
Oh bah ça marche dans les deux sens, il paraît. Si tu veux nous expliquer ça, bon, je suis pas convaincu, mais c'est pas grave, hein. On va le danser dans les deux sens.
Tu vas bien, Sam?
Oui.
Ouais. J'ai pas compris la question, c'est bien pour ça.
J'aime beaucoup le fait que ce soit Benny qui réponde.
Je m'attendais pas en fait à ce que tu poses la question comme ça, alors du coup j'ai été surpris et du coup c'est un oui qui est sorti. Mais on va dire que ça compte. Voilà. Donc Sam, tu vas bien, puisque je le dis que tu vas bien. Et
oui.
Pourquoi viens-tu? Pour quelle review?
Pour un épisode très spécial, le Action Comics 900. Et oui,
ah
déjà.
Bon, ah bon? Ah bah j'ai pas lu celui-là.
Ah, on s'est trompé de numéro en fait, c'est un autre truc qu'on voulait chroniquer, bon.
Non. Alors, donc, le 900, épisode anniversaire, et épisode même pas double, triple, quadruple.
Quadruple, puisqu'on est à presque 100 pages.
Voilà, 100 pages d'action, on va voir si elles sont bonnes.
Et 100 pages de comics, ce qui nous donne 100 pages d'Action Comics.
Ouais. Voilà. Oh là là. Mon dieu. Attaquons tout de suite, donc,
pitié.
Avec... Oui, pitié. Épargnez-nous, envoyez-nous des dons, je ne sais pas. Alors, on commence avec The Black Ring Finally, oui. Même en anglais, Reign of Doomsday, avant-dernière, je crois, malgré tout, partie du Reign of Doomsday, puisqu'il va se poursuivre.
En fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, le 900 marque la fin de tout le run de Paul Cornell sur Lex Luthor, qu'il avait lancé dans l'épisode 891. Donc en gros, on a la culmination de quasiment un an d'histoire dans cet épisode.
890 même, je crois.
Et exact. Et en fait, il fait la liaison dans cet épisode avec Reign of Doomsday que vous aviez chroniqué dans plusieurs
ouais. Weekly. On n'a pas parlé de tous les épisodes, mais quasiment quoi.
Ouais, quasiment. Enfin, les plus importants, on va dire.
On a parlé de quasiment tous les arcs, en fait. Les petits morceaux du run.
Ouais.
Et en fait, on se rend compte qu'il lit les deux parce qu'en fait, les deux sont connectés par Lex Luthor, puisque Lex Luthor était derrière l'attaque de Doomsday. C'était la grande intrigue.
Bon,
d'un seul coup, ça me plaît moins. J'espère que.
Mais
c'est plus compliqué encore. Hein. Ça se complique à la fin de l'épisode encore. Disons que le fait que Luthor soit derrière n'est qu'une astuce pour lier les deux intrigues et ça rebondit à la fin. On va pas dire comment, mais ça rebondit.
On n'a pas encore donné vraiment les crédits, donc Paul Cornell, bon ça on sait, mais Pete Woods est au dessin.
Voilà, pour toute la partie, pour toute la partie Superman Lex Luthor.
Et puis alors sinon il y en a un paquet. Il y a même du Gary Frank à un moment donné.
Voilà. Qui s'intègre assez bien dans l'épisode.
Bah qui s'intègre, ouais, d'autant que ça revient sur un moment qui était à l'époque dessiné par Gary Frank.
Voilà.
Je pense qu'ils ont fait exprès. Bah écoute Sam, vas-y, hein, si tu veux résumer, commence à nous résumer donc.
Donc comme je disais, c'est la culmination de tout l'arc de Paul Cornell sur Action Comics. Alors dans cet arc, on va dire de quasiment un an, on voyait Lex Luthor repartir en fait à la recherche du pouvoir laissé par les Black Ring qui est apparu lors de Blackest Night. Et dans l'épisode précédent, donc 899, il trouvait la source, qui était en fait un alien coincé dans la zone négative qui est doté de quasiment un pouvoir divin.
La zone négative?
La zone fantôme.
Ah oui, parce que oui, je me disais. Je me disais, tiens, il va faire un petit détour chez la FF.
Non, voilà. Non, mais en fait, ça annonce un crossover, effectivement, avec une voilà, Marvel. Ouais. C'est extraordinaire.
C'est un crossover dans mon esprit. Voilà. Non, et à la fin de l'épisode précédent, on voyait Luthor fusionner avec cet alien. Et s'accaparait tout son pouvoir. Donc on a Lex Luthor géant avec un pouvoir divin quand l'épisode commence, capable de tout faire, y compris évidemment son premier but, tuer Superman.
Ah, normal.
Donc il se lance là-dedans, sauf que il va vite avoir un problème, puisque en fait le but de l'alien pour venir dans notre dimension, c'était en fait détruire toutes les émotions négatives de l'univers. Et la condition pour que Luthor utilise son pouvoir, c'est qu'il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit de négatif, y compris tuer.
Ce qui est embêtant pour quelqu'un comme Lex Luthor.
Voilà, oui, ça devient très vite gênant quand il essaie de tuer Superman.
Mais alors, il y a une scène intéressante aussi, je pense qu'on peut le dire, puisque il se rend compte enfin de qui est Superman.
Oui.
Mais au nom de Dieu. Alors ça, c'est énorme.
Oui, mais ça dure que quelques pages. Évidemment, à la fin de l'épisode, il oublie.
Alors, malheureusement.
Oh alors, putain, c'était le turning point. Alors là, j'étais vraiment accroché.
Bah oui, parce que, comme le disait Bunny, à un moment, il y a une séquence écrite par Gary Frank, enfin dessinée par Gary Frank, puisqu'on, en fait, Luthor décide de faire, avant de tuer Superman, de le faire souffrir un peu, beaucoup même.
Bah, normal.
Et il le fait revenir au point de sa vie où il a le plus souffert, notamment la mort de son père. Et c'est à ce moment-là, quand il voit, en fait, quand Luthor voit la scène, qu'il comprend qui est Superman.
Et alors là, c'est assez énorme ce moment-là, puisqu'il dit, mais tu t'es foutu de moi durant toutes ces années, c'est assez drôle quand même.
Voilà.
C'est pas mal de dire une scène, enfin, comme ça, quoi.
Superman. Toute la confrontation.
Plus, puisque, oui. Bah, il a épousé Loïs, dont Lex a toujours été épris, ouais. Finalement.
Bien sûr.
Donc, c'est terrible.
Il y avait tout un truc, justement, avec Lois Lane, puisque Luthor s'était construit un robot à l'image de Lois Lane, qui était assez glauque, puisque... oui, c'était glauque, en fait. Hein. C'était juste glauque. Il y avait toute une intrigue derrière, puisqu'on comprend bien ce qu'il en fait, hein, du robot en question.
Oui. Il lui fait faire ses courses.
Oui, et puis il joue aux cartes.
Voilà, on va dire ça comme ça, oui.
Et il y passe des soirées très chastes avec.
Au poker, voilà. Domino aussi.
Voilà. Ils lisent les FF ensemble.
Voilà, voilà. Ils passent la télé devant X-Factor et... ils passent leur soirée devant, bon. En fait, il y a deux séquences dans l'épisode. Lex Luthor Superman, qui, à mon sens, est plutôt bien menée et plutôt bien faite.
Ouais.
Et l'autre qui est centré sur Doomsday et qui là est beaucoup moins bonne.
Alors c'est marrant parce que Fuchs l'a lu et il a préféré cette séquence. Mais bon, je peux en parler ouais, un petit peu. Alors en fait là dans cette séquence c'est on retrouve bizarrement tous les gens qui sont apparus lors de la saga de la mort de Superman à l'époque. Puisqu'au fait tu as Superboy, tu as Steel, tu as le cyborg Superman, tu as Supergirl, etc.
Par contre le
Eradicator.
Ah c'est Eradicator, je l'avais pas reconnu. J'en ai fixé ce type. Parce qu'il est apparu, il apparaissait sous différents designs, donc c'est un peu dur à reconnaître qui il était.
Celui qui s'était fait enlever dans Outsiders.
Voilà. Et donc ils sont tous liés effectivement aux origines, à l'histoire de Doomsday, au fait, depuis le début. Et bah là, ils affrontent tous ensemble Doomsday. Mais le problème, c'est que un moment, donc, ils l'affrontent, et ils se rendent compte 5 minutes après, enfin même pas, 20 secondes après, que Doomsday, au fait, est attaché dans le vaisseau dans lequel il se trouve. Et ils comprennent pas comment c'est possible, puisqu'il y a 30 secondes, il l'a affronté, et puis là, il a l'air tout mort et vulnérable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on s'en rend compte à la fin. Et, je vais pas révéler, évidemment, le...
Qui est... Ouais. Moi, ça m'a pas passionné, hein. Franchement... De toute façon, tout l'arc Reign of Doomsday, j'ai pas suivi, parce que ça m'intéressait pas. Et ça m'intéresse encore moins, maintenant.
Mais moi, je... Enfin, voilà, c'était une possibilité que j'avais émis comme finale. Maintenant, j'ai été quand même content de voir que c'était ça, quoi. Je trouve que c'est pas si mal que ça comme idée, bon...
Bah, le problème, c'est que tout l'arc précédent, c'est-à-dire 890 et 899, par Paul Cornell, c'était vraiment excellent. Ça tournait sur Lex Luthor, sa psychologie, et on poussait dans le côté psychologique. Et là, c'est...
Bah, il y a plus de Lex Luthor dans l'histoire que de Doomsday. Hein. Les passages avec Doomsday, bon, ils sont quand même...
Bah, heureusement. Beaux. Heureusement, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. On voit quelques bastons, et puis il trouve le Doomsday attaché, et il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et voilà.
Mais est-ce que l'histoire de Doomsday est terminée, alors?
Non, elle continue dans l'épisode suivant.
D'accord.
Disons que le rebondissement final fait justement avancer l'intrigue. Okay. Il a fait continuer. Bon, vous comprendrez que je suis pas passionné par cette histoire. Hein.
Il y avait d'autres histoires encore.
Oui, ah, alors ça c'était l'histoire principale. Et ensuite, comme c'est un numéro 900, comme souvent avec le numéro anniversaire, il y a un paquet de petites intrigues, enfin de petits épisodes.
De petits récits.
Voilà. Qui sont assez inégaux.
Bon, alors on va faire dans l'ordre rapidement. Donc Damon Lindelof et Ryan Sook sur Life Support.
Alors ça, j'ai adoré.
Tu as beaucoup aimé? Bah, en fait,
oui,
ça...
Autant le scénario que le dessin. Déjà, moi, dès que j'ai vu Ryan Sook au dessin, oui. Moi, c'est un dessinateur que j'adore, qui a un trait vraiment magnifique et qui ne cesse de s'améliorer chaque fois que je le vois.
Ouais. Non, mais je suis d'accord pour les dessins, effectivement, c'est beau, quoi. Mm-hmm. Alors, par contre, je sais pas s'il peut produire 22 pages tous les mois.
Non, c'est un peu le problème.
Voilà. L'histoire, bah, vas-y.
En fait, on revient quasiment au mythe originel de Superman avec son père, en fait, Jor-El, qui est embauche. On le comprend pas tout de suite, on comprend pas qui sont les personnages au début, mais on comprend en fait que c'est Jor-El qui embauche un scientifique, pas pour construire le vaisseau dans lequel il va envoyer son fils, mais pour stocker en fait nourriture, eau et en fait tout ce dont son fils aura besoin durant le voyage. Et en fait, on le sait pas au début. On comprend en fait ce qui se passe et c'est à la fin. C'est assez terrible, hein, franchement. Moi, ça m'a pas mal touché comme petite histoire.
D'accord. Bah, c'est marrant, moi, ça m'a fait moins d'effet, au fait. J'ai vu plus vite que c'était qu'il s'agissait de ça. Je sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être la barbe, au fait. J'ai reconnu Jor-El. Je me suis dit, bah tiens, ça doit être Jor-El, effectivement. Dès qu'il a sorti la sphère, je me suis dit, voilà, il parle du vaisseau de son fils. Enfin bon. Mais néanmoins, oui, c'était l'une des plus réussies des petits récits.
Ah, pour moi, c'est la plus réussie.
L'un des plus réussies. Ensuite, on a
du Paul Dini,
oui.
Dans une histoire, franchement, est-ce qu'on est obligé d'en parler?
Oui, c'est ce que j'allais dire.
C'est ridicule comme truc.
Sur une espèce d'alien.
Il n'y a rien à en dire, il n'y a rien, franchement, c'est nul à chier.
Non, voilà, mais disons-le, c'est mauvais, bon bah voilà, Paul Dini,
c'est pas décidé, c'est pas décidé très bien en plus, donc passons.
Non mais enfin juste, voilà, avec un gros hippopotame bleu.
Voilà, qui vole.
Avec un gros hippopotame bleu qui vole.
Ça m'a donné vachement envie de lire le truc, là, vous me l'avez vendu, les mecs, c'est impressionnant.
Voilà, alors après, c'est tout de suite plus...
C'est mieux, c'est plus mieux.
Oui, c'est plus mieux, puisqu'on a, c'est simple,
Steve Jones.
On a du Jeff Jones et surtout du Gary Frank qui nous dessine toujours une Lois Lane avec de ses jambes. Voilà.
C'est tout ce que t'as vu dans l'épisode. Hein.
Pas besoin d'en dire plus. Bah, en fait, l'épisode en lui-même, c'est vraiment un épisode prétexte. En fait, c'est l'anniversaire de la Légion. Non, enfin,
c'est... Non, en fait, c'est l'anniversaire de Clark. Non, c'est même pas une question d'anniversaire, c'est juste que Lois pense que Clark aurait besoin d'une vie un peu plus normale. Elle invite ses amis de la Légion pour s'amuser. Voilà.
Et au fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'elle avait planqué une bague de la Légion que lui avait donné Saturn Girl sous son bureau.
Voilà. Et quand Clark lui demande, attends, tu gardais une bague de la Légion là-dessous? Et elle lui répond, mais qui oserait fouiller là-dedans? Qui irait creuser, en fait, là-dedans, parce que c'est un bordel. Il y a plus de papier et d'ordures là-dessous que dans une décharge publique, donc pour arriver à la trouver, faut s'accrocher.
J'imagine l'état du bureau, ouais.
Voilà, donc c'est très sympathique, hein. c'est très léger, mais
ouais,
moi j'aime bien.
C'est 5-6 pages, je pense, mais franchement,
pages,
voilà. Pour Lois Lane par Gary Frank, c'est incontournable. Ensuite, on passe à un épisode qui a fait le buzz sur le net.
Surtout par David Goyer et dessiné par
Miguel Sepulveda.
Franchement, moi qui m'ai ennuyé.
Bah,
j'ai pas compris tout le truc. Si on... Voilà, c'est Superman qui va en Iran.
Oui, et surtout...
Et qui reste debout et qui ne fait rien.
Oui, mais surtout...
encore mieux que le Superman qui marche, le Superman immobile.
C'est n'importe quoi, cet épisode. Franchement,
ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est que il décide de... Peut-être, parce que c'est pas dit, au fait, à la fin, s'il va le faire, mais il dit à un émissaire américain qu'il va sans doute demander à ce qu'il ne soit plus américain. En fait,
il
retire la nationalité américaine. Ouais. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la manière de faire de l'armée des États-Unis.
Non, mais franchement, c'est mal écrit, c'est mal... sans intérêt.
Bah, je sais pas si c'est... Enfin, c'est pas si mal écrit que ça. Moi, j'ai trouvé que ça se lit plutôt bien.
Non, mais il y a des incohérences. C'est, par exemple, l'épisode commence sur Superman qui rencontre un général qui lui dit « Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour être allé vous planter en Iran ?» Et Superman, je sais pas trop. Qu'est-ce que vous espériez? Je sais pas trop, je sais pas, je me suis mis là, et puis voilà. Il y va sans même y réfléchir. C'est voilà le mec qui déclenche un incident international qui peut amener à la guerre, et qui, je sais pas trop pourquoi il est allé. Voilà, il sait pas trop ce qu'il espérait, c'est n'importe quoi.
Bon, la fin fait sourire. Moi, la fin, j'ai trouvé ça un petit peu...
Ouais. C'est cucu, hein.
C'est un petit peu.
Ouais. Non, mais le bon. Fait de vouloir évoquer sa propre nationalité américaine, je comprends que ça fasse le bordel aux États-Unis, quoi.
Mmh. Ah oui, mais allez voir la réaction de Fox News. C'est qui est une excellente chaîne comique, je trouve.
Très bien, bah alors, c'est intéressant. Voilà, donc les auditeurs, allez voir donc là, sur Fox News, j'irai voir moi-même.
Et si on termine. Regarder, c'est toujours très drôle, Fox News, je trouve.
Bon, et on termine par alors un truc assez particulier.
Un script.
Ouais, au fait, un espèce de script à peine en image de Richard Donner et Derek Hoffman.
C'est un storyboard.
Par Matt Camp, d'ailleurs, au dessin.
Oui, je sais pas si on peut signaler des dessins, parce que c'est plus des ébauches que...
C'est des croquis.
Oui.
Des esquisses, parfois. Bah vas-y, écoute, je te laisse.
J'ai même pas réussi à lire.
D'accord, très bien.
Tellement, ça m'a pas intéressé.
En gros, il rencontre un espèce de nouveau super-héros à super-pouvoir, et il essaye de le contenir.
Waouh, c'est intéressant.
Voilà. Non, mais c'était tout à fait inintéressant. Je comprends pas, d'ailleurs, pourquoi ils ont terminé là-dessus.
C'est parce que Richard Donner.
Oui, voilà.
Oui, mais à ce moment-là, on lui fait dessiner un truc.
Oui, enfin voilà. Là, il est vraiment pas à l'honneur, là, justement.
Oui, mais enfin, Richard Donner est un réalisateur, donc ce qu'il fait de mieux, c'est écrire des scripts et
non, mais le film. Truc est complètement écrit, hein.
Oui, mais voilà, c'est pour ça. C'est que comme ce qu'il fait de mieux, c'est le cinéma. Donc, on a fait un truc qui se rapprochait du cinéma, et pour un comics, ce qui se rapproche le plus du cinéma, bah, c'est un storyboard.
Ouais, mais je te dis, le truc est raté, pour moi.
Ah ben, après, je sais pas, je l'ai pas lu, mais ben, voilà, ouais, c'est...
Tu verras, c'est raté.
Je comprends la démarche, après, est-ce réellement intéressant?
Non.
Est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas certain, mais je comprends la démarche. Quoi.
Enfin bon, dans l'ensemble, je dirais, moi, sur le 900, un avis assez mitigé. C'est pas le premier numéro anniversaire de Superman que je lis, c'est pas le meilleur. Hein. Et surtout pour le prix, hein, $6, faut en vouloir.
Ouais, après faut voir quand même le nombre de pages et le temps qu'on prend à le lire, quoi, qui est quand même assez conséquent du coup. Et moi j'ai quand même bien aimé l'histoire principale.
Ah mais non, mais c'est-à-dire que la seule histoire moi qui m'a intéressé là-dedans, c'est la confrontation Luthor Superman, qui doit faire une vingtaine de pages, mais c'est le seul truc qui m'intéresse. Hein.
Ouais, non, moi il y avait quand même quelques bons artistes dans les petits récits, donc pour moi ce sera quand même un bail, quoi. J'ai quand même bien apprécié ce numéro.
Moi je dirais un check-it. Hein.
C'est quand même le premier 900 réel, puisqu'on a déjà eu des 900 avec Deadpool 900 ou Wolverine 900.
Ça compte pas.
Mais qui sont des faux 900, donc qui ne comptent pas. Là c'est vraiment le premier numéro 900 d'une série, donc c'est quand même un événement, quoi.
Bon voilà,
ça vous a tué.
Non, mais
non, c'est vrai, c'est le premier numéro. Mais c'est pas c'est pas un numéro qui m'a inspiré. C'est-à-dire, globalement, je suis quand même assez déçu à cause de la qualité du reste du run de Paul Gornel, qui était vraiment excellent. Et là, le voir un peu finir là-dessus. Bon, il continue à l'écrire ensuite, mais finir l'arc de sur Luthor comme ça, voilà.
Une petite déception pour toi, Sam, donc.
Voilà, c'est ça que ça sera un check-it.
Moi j'ai pris du plaisir, donc non, pour moi ce sera un bail, ce sera...
Surtout avec les jambes de Loïs.
Voilà, ouais.
Oui, mais ça apparaît sur deux pages.
Oh oui, mais bon, ça suffit.
C'est pas difficile, hein.
Les deux seules pages collées qu'il y a dans le Action Comics 900 de Bunny.
Voilà, c'est ça.
Dans 30 ans, on lui demandera, mais pourquoi les pages sont collées?
Je le ramènerai au...
J'ai eu un moment d'émotion.
À la Comic-Con, en fait.
Bien, eh bien, merci Sam d'être venu.
Bah, je t'en prie.
Pour cette solo double review.
Ou juste double solo,
comme tu veux.
Ouais.
C'est exactement ça, c'est comme je veux.
Et puis, on se retrouve très bientôt, Sam.
Et juste Sam, un mot de la fin, s'il te plaît.
Pouet, tralala, ton soin.
Ah, bah, parfait. Je m'attendais pas à autant de ta part. Merci, Sam.
Mais je t'en prie, je suis toujours à ton service. Il est bien entendu que c'est moi qui ai écrit les textes de Bunny, en fait, hein. Vous l'aurez tous compris.
Mais bien sûr, non mais c'est bien de le dire, enfin de le révéler.
C'est pour ça que ça vole pas haut.
C'est de l'autocasse, en fait.
Voilà. Disons que c'est la casse indirecte. Je casse Bunny, en
fait. Oui, mais tu te casses en même temps.
Oui, mais comme tout le monde sait que j'ai pas le sens de l'humour... L'effet est quasi nul.
Bon, eh bien, merci Sam.
À bientôt.
À bientôt.
Je ne sais pas, après ça, serais-je réinvité.
Et on va essayer de continuer notre programme. Si c'est encore possible. Merci. À bientôt, Sam.
À bientôt.
Et on accueille pour notre deuxième solo double review notre deuxième invité, Nono.
Bonjour, les enfants.
Les enfants.
Bonjour, papa.
Tu vas bien, Nono?
Ça va bien, et vous?
Ça va, ça va. Ça va. Deuxième prise. Puisque mauvaise manip.
Voilà.
Donc, on commence. Donc, tu es venu nous parler du
Avengers 12.1.
J'adore comment tu dis ça. Au scénario, Brian Michael Bendis, au dessin, Brian Hitch, à l'ancrage, Paul Neary.
Voilà.
Ça, hein, donc, censé être accessible à tous les nouveaux lecteurs.
Oui.
Est-ce le cas?
Et puis, je vais te laisser faire le pitch, tiens, Nono.
D'accord. Alors, le pitch, on commence avec Jessica Drew, Spider Woman, qui nous est présentée comme également agent du SWORD. Donc, chose qui est vraiment sympa, parce qu'on avait un peu oublié qu'elle était agent du SWORD depuis pas mal de temps.
Bah, depuis sa superbe série en 7. Hein,
voilà. Parce que,
voilà.
Donc, oui, moi j'avais bien aimé, mais bon. Et donc, elle est envoyée par le SWORD enquêter sur une menace extraterrestre. On apprend par la suite que c'est Wakanda. Et elle est capturée par des gens pas très fréquentables et pas très recommandables.
Bah, de toute façon, on peut le dire, hein, parce que c'était marqué dans la sollicitation, donc ce sera pas plus spoiler que ça. D'accord. C'est l'Intelligentsia.
Voilà.
Donc,
l'Intelligentsia qu'on n'avait pas vu depuis un moment, il me semble.
Bah, depuis World War Hulk.
Pas tant que ça, au fait.
Bah, depuis une année, à peu près.
Ouais.
Et c'était pas apparu dans Fantastic Four, ou je ne sais plus?
Non, je m'en rappelle pas.
Pas depuis, ça fait un moment que je lis les FF en
vidéo. Il me semble que récemment on avait fait une review en VO et qu'on avait dit tiens c'est intelligent parce que justement il y a l'Intelligentsia qui est réutilisée, je sais plus.
Non, c'était dans les news, justement, c'est quand tu annonçais qu'il allait avoir ce 12 points avec le retour de l'Intelligentsia.
C'est blague. Voilà, d'accord, c'était pour ça.
C'est intéressant de réutiliser ce groupe, parce que bon, c'est comme tous des personnages relativement connus. Donc forcément, voir le groupe démantelé juste après le crossover, c'est ce serait un peu dommage, quoi. Puis ouais. Voilà, c'est les anti-Illuminati.
Voilà, en même temps, ils sont là, mais ça aurait été pareil, quoi.
Bah, ouais, c'est vrai, quoi.
C'est un texte, quand même, ils ont pas non plus un rôle... Ça aurait été un autre vilain, ça aurait été Doom, par exemple, je pense que l'effet aurait été le même.
Ouais, c'est vrai. Mais disons que c'est plus facilement acceptable de voir Spider-Woman se faire enlever par autant de vilains en même temps que par un seul, quoi.
C'est tendancieux, hein, ce que tu dis. Mais le truc, c'est que...
Ouais, c'est magnifique.
Oui, je l'ai feuilleté, j'ai une question à te poser, Nono. Est-ce que tu trouves pas ça extraordinaire qu'à chaque fois qu'elle se fait enlever Spider-Woman, elle se retrouve à poil?
Bah, c'est pas vraiment pour nous déplaire, je dirais.
Oui, bien sûr. Surtout que là, ça change, quoi, dessiné par Brian.
J'aurais enlevé Maïté et l'aurait foutu à poil, là. Ok, j'aurais fait des réserves. Mais bon.
Oui, effectivement. Effectivement. Mamie Bonheur.
Voilà. Oh pitié, au secours.
Voilà, je vous ai mis une vieille image dans la tête.
Oui, non.
On va essayer de continuer le pitch, hein, et vite s'enlever cette image de la tête.
Après la capture de Spider-Woman, en fait, on se retrouve dans la tour de Défenseurs avec Abigail Brand, qui est la directrice du SWORD, et qui explique en fait à tous les Vengeurs réunis déjà ce qu'est le SWORD, parce que le SWORD est une agence très très secrète. Même Steve Rogers apparemment ne connaissait pas l'existence de cette agence.
Mais ce que j'ai trouvé assez marrant dans cette scène, c'est que quasiment tout le monde est au courant sauf lui.
Oui, voilà. Bah, parce que là, on nous réapprend que The Beast est également un agent du SWORD, que Wolverine a déjà bossé avec eux. Voilà, tout le monde connaît, sauf Big Boss, quoi.
C'est marrant qu'il soit pas trop étendu sur la liaison qu'ils ont tous les deux, finalement.
Mm.
Parce que, bon, ok, il est agent du SWORD, d'accord, mais en même temps, il est un petit peu avec Abigail, quoi. Enfin, c'est une relation assez étrange entre les deux, mais... voilà, c'est marrant que Bendis n'ait pas été voir plus loin de ce côté-là, quoi.
Je pense que vu que c'est un point 1, il a pas non plus voulu trop embrouiller les choses.
Ah,
il y a pas mal d'éléments qui nous sont rappelés, Déjà la présentation de Spider-Woman sur la première page, ensuite l'explication du Sword, le rappel, bon, on y viendra après, mais le rappel du premier arc des Avengers, etc. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal d'éléments. Il a pas voulu justement rajouter des choses qui étaient peut-être pas hyper nécessaires, parce que je pense que le Sword, on va plus le voir après, quoi.
Ben le truc, ça aurait été peut-être plus marrant s'il y avait eu quelques sous-entendus, quoi. Que Steve Rogers n'aurait pas forcément compris. Juste des sous-entendus là, il y a rien, quoi. C'est comme s'ils étaient pas, voilà, juste des collègues, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Ce qui est étonnant, c'est qu'à son retour, on l'ait pas débriefé plus que ça, hein, Steve Rogers. Ça fait quand même des mois qu'il est revenu et il sait toujours pas qu'est-ce que c'est le Sword.
Mais justement,
c'est un peu ridicule, quoi.
Mais c'est justement la scène en est ridicule à cause de ça, parce que parce qu'il gueule, justement parce qu'il est pas au courant, quoi. Que c'est le seul à ne pas être au courant.
Et en fait, l'agent Brand lui apprend qu'elle travaille pour lui, quoi.
ce qui est encore plus drôle.
Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il est censé diriger un groupe dont il ne connaît même pas l'existence.
Mais j'ai remarqué que ces temps-ci, Bendis tourne un petit peu la situation en dérision bien souvent. Par exemple, quand il utilise Wolverine, il fait remarquer qu'il est dans plein d'équipes à la fois, et il tourne ça un petit peu ridicule, quoi. De plus en plus, il s'auto-parodie, je trouve.
Ouais, mais bon, là, c'est efficace, je trouve. Moi, ça m'a fait rigoler, quoi.
Voilà. Et donc, pour continuer sur le pitch, ils vont partir à la recherche de Jessica Drew, de Spider-Woman, parce que c'est également un membre des Avengers, et comme le dit très bien Thor dans une de ses phrases, on prend soin des nôtres.
C'est là que c'est à la fois intéressant et à la fois perturbant. L'équipe qui l'envoie à la recherche de Jessica Drew est un pot pourri de toutes les équipes Avengers. Donc c'est-à-dire qu'on va retrouver Beast, Moon Knight, mais aussi Thor, Wolverine. Donc voilà, il y a un mélange Protector. Donc il y a un mélange entre les Avengers, les New Avengers et les Secret Avengers.
Mais je pense que le point en fait permet également de représenter un peu tout le monde. Vu qu'on a eu des points, on a eu le point qui sort également cette semaine sur les Secret Avengers.
Ouais.
Que je n'ai pas encore lu.
Moi non plus. Mais apparemment qui est bien centré sur Captain America, ce que j'ai cru comprendre. Enfin, sur Steve Rogers, pardon.
D'accord.
Donc, le problème, c'est que, même si c'est très bien, donc c'est un point 1 qui peut servir à toutes les séries Avengers, donc ça, d'un point de vue économique, c'est assez sympa pour qui veut se mettre aux Vengeurs. En même temps, pour celui qui veut découvrir la série Avengers et uniquement la série Avengers, qui se dit « Oh là là, c'est vachement bien, il y a tous les personnages que j'aime dans cet épisode-là », quand il va acheter le 13, il va se rendre compte qu'il y a plein de personnages qu'il n'aura pas.
Oui.
Il y a c'est sûr, mais en même temps, c'est sur la marchandise, disons.
C'est très très récurrent, je vais dire sur la communication Marvel ou même sur regarde, souviens-toi Shadowlands, ils nous présentaient, on avait pendant des mois des teasers avec Wolverine, etc. Wolverine, il apparaît que dans un seul épisode.
Oui, c'est clair, c'est clair.
C'est un peu la technique de communication, on met en avant tout le monde et au final, on se retrouve avec pas tout le monde.
Bon, en tout cas, là, l'équipe qui part à la rescousse de Spider-Woman fonctionne bien.
Oui.
C'est comme une équipe de gros bourrins, quoi. Parce que genre on a Protector, on a Miss Marvel, on a Thor.
Il le dit Steve Rogers, il dit qu'il veut des agents terrain.
Oui. Là il a envoyé les bourrins, quoi.
Il a envoyé la grosse artillerie.
Donc pour finir, bien sûr, il la récupère, mais il y a un petit truc, c'est que ça prépare la grosse menace.
Voilà.
De la prochaine année. Et c'est intéressant. Et en même temps, ça pose le problème par rapport à Fear Itself.
Disons qu'on est complètement hors continuité de Fear Itself, là.
Ah, complètement, oui.
Complètement, on n'en parle absolument pas.
Est-ce que c'est pas positif, justement?
Je ne dirais rien, je l'ai pas encore lu.
Non, mais, c'est positif, oui et non, parce que ça montre que... je sais pas, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que Bendis est un peu pas content que ce soit pas lui qui gère Fear Itself. Et donc il prépare son futur event pour l'année prochaine, et donc il en a rien à foutre de Fear Itself qui se passe en ce moment.
Ouais, mais en même temps, son futur gros event était prévu depuis longtemps, souvenez-vous de
la timeline, bien sûr. Oui.
La timeline oui. Qu'on avait vue dans Avengers, je sais plus combien, c'était le 4 ou le 5, il me semble, de mémoire. Ce gros event, ainsi que Fear Itself, on l'avait vu venir.
Bien sûr, mais là où ça pose le double problème, c'est que une fois de plus, Fear Itself... T'as l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est genre, on fait un event pour faire un event. Y a rien qui annonce Fear Itself dans aucune publication ces derniers mois. Alors que là, une fois encore, comme avec Secret Invasion, Bendis nous place des éléments auparavant. Et quand l'event va arriver, Ce sera pas comme si, genre, on claque des doigts pour faire une opération commerciale, quoi. Il y aura eu quand même quelque chose, des travaux préparatoires de fait. Et ça, c'est bien. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, quoi. Si on est dans un monde de continuité, bah, qui est vraiment la continuité, qui est pas un truc qui débarque comme ça, du jour au lendemain.
C'est sûr.
En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé cet épisode.
Oui. Alors, moi, j'avais très peur, n'ayant pas encore lu le Avengers 12, donc la fin de l'arc avec The Hood, j'avais très peur d'avoir des spoils sur la fin de l'arc, mais pas du tout. Ouais. En fait, le gros avantage, c'est que c'est vraiment un point de départ. On n'est pas du tout obligé d'avoir lu les deux arcs précédents du relaunch pour comprendre. Ça nous présente bien les personnages et ça nous installe la future situation, quoi.
C'est clair. Et puis, quelle situation?
Je sais pas si on peut spoiler la fin, vu que non, peut-être pas.
Bah, sans la spoiler, on peut donner un petit indice, quoi.
Ouais. C'est un gros méchant.
Ouais, voilà, un gros méchant des Avengers principalement. Ouais.
Bah, disons pour compléter un peu l'histoire, l'Intelligentsia a récupéré quelque chose. C'est l'Intelligentsia en fait qui a récupéré la menace extraterrestre sur laquelle Jessica Drew était partie enquêter. Mmh. Et en fait, à la fin, on apprend que cette menace, bah, c'est un gros méchant.
Ouais. Qui était caché dans le corps de quelque chose d'autre.
Ouais. Donc si vous avez lu, le premier arc des Avengers, bah, vous allez comprendre assez vite. Si vous l'avez pas lu, ça va vous faire une belle petite surprise, je pense. Ouais.
Bon, moi, en tout cas, pour moi, c'est franchement un bail. En plus, les dessins de Brian Hitch sont vraiment sympas. Ça colle vraiment bien.
Rien que pour ne plus avoir Romita Junior sur les Vengeurs, c'est un
c'est vrai. Ah oui, ça c'est bien vrai. Ça fait du bien.
Rien que pour ça. Parce que, bon là, on a appris, je sais pas si vous en aviez parlé dans une news précédente sur un weekly, mais on a appris que ça allait être Neil Adams qui allait reprendre à partir du 16.
En fait, il est là pour le 16.1. Je crois que ça va être de New Avengers.
Ouais, je sais pas s'il reste ensuite.
Non, c'est juste pour le point 1 qu'il est là, Neil Adams.
C'est juste pour le point 1.
Ouais.
Ah, j'avais lu que c'était sur les Avengers et qu'il allait rester.
Ah, alors c'est peut-être une news supplémentaire.
Ah, c'est peut-être une news que tu n'as pas eue chez nous et qui est fausse. Car chez seules les news sont vraies. Enfin bref.
Non, mais, voilà, je suis content de lire un numéro d'Avengers sans Romita Junior que je trouve sur ce titre, autant que sur d'autres titres, j'aime bien. Mais sur les Avengers, je trouve ça brouillon, je trouve ça bâclé. Et là, ça fait plaisir de retrouver des personnages qu'on connaît et qu'on reconnaît surtout.
Avoue que tu as une pensée pour Marc Bagley. Avoue, Buddy. C'est pour ça que tu as rigolé quand il a dit que c'était bâclé.
Non, j'ai une pensée pour Marc Bagley, surtout sur le passage de Spider-Woman, puisque si ça avait été Marc Bagley, à mon avis, il aurait aussi dessiné toute nue. Ce qui n'est pas pour nous déplaire non plus. Voilà. Non, mais c'est un bail, donc.
Ah oui.
Oui, complètement. C'est un bail, c'est un check-it. Moi, je dirais check-it pour ceux qui suivent tout depuis le début, mais un bail pour ceux qui veulent s'y mettre.
Oh, bah, pour ceux qui suivent tout depuis le début, moi, je pense que c'est un bail aussi, puisque ça annonce l'event de l'année prochaine.
Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit obligatoire de le lire si on est dans la continuité depuis le numéro 1, en fait.
Ouais, mais je suis pas sûr qu'on reviendra sur ces événements-là, tu vois. Donc, l'avantage, c'est que bah, pour ceux qui suivent en TPB, vous pouvez l'acheter. Vous serez pas spoilé sur le précédent arc.
Non.
Et surtout, je ne sais pas si les points 1 sortiront dans les TPB.
Ouais, c'est clair.
Donc, dans le doute, moi, je vous conseillerais de le prendre.
Mais bon, je disais par rapport à la continuité, parce que par exemple, il y a des séries dont je suis, style Wolverine ou autre, où il y a eu des points qui sont sortis et que j'ai pas acheté, et ça m'a pas empêché de comprendre.
Oui, mais pour une fois, c'est un point qui remplit bien son... Enfin, pour une fois, non, on en a quelques-uns, mais dans l'ensemble, les points 1, je suis assez mitigé, quoi. Il y a des bons points 1, et puis il y a des points 1 qui ne servent à rien.
Ouais, là, c'est un bon point 1.
Voilà, c'est comme les bons chasseurs. Là, c'est bon.
Moi, il y a une réplique qui m'a fait rigoler, qui m'a vraiment fait rire, qui a dû te faire rire aussi, Steve. C'est le geek qui parle. C'est quand Steve Rogers demande si il y a d'autres personnes qui font partie d'autres équipes inconnues, etc.
Oui. Ah, bah oui.
Et il y a Spider-Man qui sort. Moi, j'ai un voleur level 27 sur World of Warcraft. Voilà. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, ce truc.
Voilà, c'est ça. Je suis level 27 rogue sur World of Warcraft. Et la tête de Steve Rogers qui fait, c'est quoi? C'est encore une autre équipe secrète? Et Spider-Man qui fait, non, laisse tomber.
Ça m'a beaucoup fait
marrer. Ça, ouais, moi aussi. Franchement, ça m'a vraiment fait marrer, quoi. Cette scène avec tous les Vengeurs est drôle, quoi. Est vraiment drôle. Autant il y a des fois où il y a des scènes avec Bendis où on s'ennuie un peu, que celle-ci est vraiment dynamique.
Voilà. Et on sent que Steve Rogers est complètement paumé, quoi.
Ah ouais, ouais, ouais.
On sent qu'il est Big Boss, mais qu'en fait, il capte rien du tout à ce qui se passe.
Ça pourrait être le Steve Rogers qui vient de sortir de son bloc de glace, quoi.
Ouais.
Il est aussi paumé. Mm. Donc voilà, bah, un très bon 12.1. Voilà. Avengers 12.1. Donc, bah, si vous ne savez pas quoi prendre cette semaine, jetez-vous dessus.
Carrément.
Bien, merci Nono de venir faire cette review avec moi.
Mais je t'en prie, c'était un plaisir.
Avec nous même.
Oui, 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 avec nous.
J'avais prévenu Steve que je voulais faire de review avec toi.
Très bien, merci Nono. Et juste un truc, j'ai un truc à quand même à te demander en dernier. Un mot de la fin.
Un mot de la fin.
Vas-y, alors, n'importe quoi. Qui te passe par la tête. Ah, oh, c'est facile.
Ah, facile, mais c'est mon mot de la fin. J'ai hésité avec Wasing.
Chapeau.
Non.
Tiens, chante tout le générique.
Chapeau, polopo. Chapeau, pilipi. Voilà.
Très bien. Impeccable. Merci.
Je vous en prie.
Merci Nono. À bientôt.
À bientôt. Ben, même plus tôt que vous ne le pensez.
Oui, bien sûr. Et on va continuer avec le programme normal. La suite de nos reviews.
Et je commence la première vraie review solo, du coup.
Qui n'est pas nouvelle cette fois.
Oui. Qui concerne donc la fin de Justice League Generation Lost avec le numéro 24. Au scénario, on retrouve Jude Winnick. Au dessin, Aaron Lopresti. Et à l'ancrage, Matt Ryan, disons. Donc, au fait, qu'est-ce donc? C'est la bataille finale de la Justice League Generation Lost, on va dire, pour le moment, on va les appeler comme ça, hein. L'équipe de...
Tu aurais pu faire une jolie blague avec Rocket Red en disant que c'était la lutte finale.
Oui.
Tu l'as raté.
Oui, je l'aurais pas fait. Eh bien, tant pis. Eh bien, voilà. Donc, ce ne sera pas la lutte finale, surtout que Rocket Red fait une piètre performance dans ce numéro, exactement. Donc, au fait, grosso modo, eh bien, nos héros, donc Blue Beetle, Booster Gold, et aussi Wonder Woman, qui est là, font face à un OMAC Prime. Alors, le OMAC Prime, c'est l'OMAC suprême, quoi. C'est un espèce d'OMAC mixé avec Amazon.
De toute façon, le professeur avec qui travaille Max Lord est celui qui a créé Amazon.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est rappelé dans le numéro pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Et grosso modo, Maxwell Lord, c'est simple, hein, il veut détruire ses ex-alliés, il veut surtout tuer Wonder Woman publiquement à la télévision, comme Wonder Woman l'avait tué. Ouais. Donc bon, motivation d'un vilain assez ordinaire, la vengeance. Arrivera-t-il à ses fins? Eh bien, il faudra regarder, enfin lire surtout cette bataille finale qui est assez titanesque quand même, hein, puisque c'est un épisode double, oui. Plus de pages que d'habitude. Et un truc assez étonnant, alors je sais pas si c'est normal, mais à la télé, les journalistes ne reconnaissent pas qui est cette mystérieuse combattante.
Mais en fait, ça avait été expliqué dans toute la série. À partir du moment où on apprend que le plan de Max Lord est de tuer ce Wonder Woman, plus personne ne se rappelle de Wonder Woman. Et c'est le fait qu'elle soit passée dans cette espèce de dimension depuis le run de Straczynski. Ça lui a en même temps effacé tous les souvenirs. Tel Max Lord avait effacé les souvenirs, ses propres souvenirs de tout le monde en même temps, et ben quand elle a changé de dimension, ça a effacé les souvenirs de tout le monde de Wonder Woman. Plus personne ne sait qui est Wonder Woman.
Sauf
ceux qui se rappelaient de Max Lord.
Voilà. Un petit peu un truc à la Sentry, quoi, en fait.
C'est là aussi où il y a un petit souci, c'est qu'au tout début de la série, rappelle-toi, on voyait quand Booster Gold amenait les images à la Batcave, tout le monde voyait Wonder Woman, mais il voyait pas Max Lord, mais il voyait Wonder Woman. Et il disait, mais oui, c'est Wonder Woman, elle est là avec son épée.
Ouais, mais alors, est-ce que c'est parce qu'elle était dans son ancien costume?
Je sais pas. Ouais, non, mais c'est que là, plus bizarre. Personne ne s'en rappelait du tout, quoi. Wonder Woman, plus personne savait qui c'était.
Ouais.
Petit souci, quoi.
Ouais, petit souci. Alors, peut-être que ce sera expliqué dans Flashpoint. Bah,
je pense que c'était pas... que le truc était pas encore lancé à ce moment-là, quoi. Au début de Generation Lost, Wonder Woman n'était pas parti dans sa dimension, quoi. Il n'y avait pas eu le numéro 600.
Ouais. Mais les éditeurs s'étaient pas encore mis de concert, on va dire. Toujours est-il que, c'est la grosse baston finale. Alors, est-ce que Maxwell Lord va s'en sortir? Est-ce que Wonder Woman va s'en sortir? Est-ce qu'il va y avoir des pertes au sein des rangs de cette Justice League Generation Lost? eh bien tout ça est à découvrir dans cette lecture, parce que je peux pas vraiment raconter ce qui se passe, ce serait vraiment dommage.
Bah là ce serait du spoil.
Toujours est-il que j'ai trouvé sympathique cette fin, même si au final il n'y a pas vraiment beaucoup de surprises. Voilà, ça manque un petit peu de panache, j'ai trouvé. Mais bon.
Ce qui m'ennuie un petit peu, moi, parce que je l'ai lu aussi, hein, donc voilà, je peux en parler un petit peu, c'est que la promesse qu'on nous fait à la fin est intéressante, mais je me dis un petit peu tout ça pour ça, quoi.
Ouais. En même temps, cette promesse-là, il y a quelques mois, aurait été, à mon avis, impossible à mettre en place, quoi.
Bien sûr, mais au final, il s'est pas passé grand-chose.
Oui, mais au fait, c'est tout le constat de se dire, bon bah, est-ce que c'était sympathique au final ces 24 numéros ?
Par contre, oui, bah moi j'ai bien aimé, quoi.
Moi, je sais que j'ai adoré, donc du moment qu'on a aimé la lecture et qu'on a aimé le trajet, enfin le voilà, c'est 24, c'était pas 24 mois, c'était 12 mois d'ailleurs, puisque ça sortait toutes les deux semaines.
Oui. Bah même pas 12 mois en fait, 11, puisque en fait ils ont réduit la série à 24. À la base, elle a été prévue en 26, mais ils l'ont réduit à 24 de manière à ce qu'elle ne chevauche pas Flashpoint, qui est le gros événement qui va changer tout l'univers.
Voilà.
Donc il fallait que les choses s'arrêtent avant, quoi.
Et l'histoire était vraiment agréable à suivre, et du coup, oui, pour moi, c'était utile de faire ça du moment que c'était bon. Et j'espère d'ailleurs qu'on l'aura en français. Je doute, peut-être en deux big books. Qui sait?
Qui sait, ouais. Espérons, mais en tout cas c'est sympa. On a des révélations sur des personnages, le changement de Ice, notamment. On a des explications sur son origine. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est peut-être ce gros retour des Omak et puis ce Omak Amazo, quoi.
Ouais, non, mais enfin bon, ça c'était prétexte pour finir en grosse baston finale, mais...
Comment l'appellera-t-on ? Amak ?
Oh là là.
Ouais, je sais.
Remarque, on a bien eu Chlore en français, donc pour le clone de Thor. Mais toujours est-il que la série était vraiment sympathique.
Ouais.
Je dirais, c'est un petit peu du même tonneau, en moins bien, certes, que 52. Moi, ça me faisait penser un peu à 52, quoi, avec tous ces personnages secondaires, très très secondaires, qui finalement... Bah, au fait, le tour de force, c'est de les remettre vraiment sur le devant de la scène et d'avoir envie de les lire, quoi.
Ah oui, bah oui, c'est clair. Moi, j'ai vraiment envie de lire d'autres histoires avec eux.
Voilà. Donc, le pari est réussi et du coup, en plus, la série était vraiment, vraiment bonne. Donc pour moi, c'est un bail et pour les gens qui auraient tout raté de Generation Lost.
La TPB.
Bah ouais, les TPB. Les TPB. Exactement. Bonne série à découvrir, 24 numéros de fun. Très très bon.
Bah, on va rester dans le même univers puisque bah, pour ma dernière review de la semaine, j'ai pris le Brightest Day 24 qui termine aussi. On a les deux sorties cette même semaine. Donc c'est encore un numéro double, donc effectivement un peu plus cher à 4,99$. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait deux numéros à 4,99$ plus le 900 qui fait 6$. Enfin, bah, c'est vrai qu'on a des numéros assez chers, mais en même temps ce sont des numéros oversized. Donc
bon. Puis c'est des numéros finaux.
Oui, c'est sûr.
Ça clôture vraiment. La même semaine en plus, c'est vrai que c'est bizarre.
Cette semaine est excessivement chargée en comics. C'est impressionnant cette semaine, il y a énormément de sorties.
Et de bonnes choses.
De bonnes choses en plus, c'est ce qui fait qu'on a un petit peu galéré pour trouver quand même ce qu'on allait faire, quoi. Bah, pourquoi parler d'un truc plus que d'un autre, quoi. Donc voilà, bon, on va revenir sur Brightest Day. Geoff Johns au scénario, Peter Tomasi. Et au dessin, alors y a tellement de monde que je vais pas citer puisque... dessinateur est encore confondu, il y a 12 personnes. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup trop de noms à citer. Là encore, c'est la bataille finale pour sauver la Terre. Encore plus balèze que Generation Lost. C'est carrément pour sauver la Terre.
Ouais. Ouais.
Avec, bah là je vais le révéler, hein, ce fameux Swamp Thing Black Lantern.
Ouais, Swamp Thing qui est de retour sur le devant de la scène.
Un Swamp Thing géant. Et puis, la lanterne qui révélait... qui allait être ressuscité, fameux Alec Holland, le Swamp Thing.
Ouais. Et alors j'ai envie de te dire, finalement il y a beaucoup de gens, surtout dans les lecteurs français, qui vont se dire qui, tu vois, à l'énoncé de Swamp Thing.
Mais encore, on en a eu du Swamp Thing en France, contrairement à la Justice League International.
Oui, c'est vrai.
Donc les lecteurs français sont peut-être plus habitués à ce personnage-là qu'au personnage de la Justice League International.
Mais là, en fait, durant toute la série, la Justice League International, on te l'a un petit peu présenté, alors que là, Swamp Thing, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi, finalement.
Un petit peu, oui, c'est vrai. On a comme des explications de cette fameuse White Lantern, Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'on n'a pas de révélation de qui est derrière ce pouvoir, au final.
Ouais.
Et ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus déçu dans ce Brightest Day 24.
Bah ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est juste au fait qu'ils avaient décidé de relancer Swamp Thing et du coup ils se sont dit bah on va mixer la fin de Brightest Day pour relancer le personnage, lui donner plus de puissance, plus d'exposition, ou est-ce que c'était vraiment prévu, pensé dès le début quoi. C'est la question que je me pose aussi.
Oui, oui. Bah, donc là, on a ce Black Swamp Thing qui en fait on nous apprend que c'est devenu finalement l'avatar de Necron à la disparition de Necron à la fin de Blackest Night. L'esprit de Necron s'est en quelque sorte réincarné dans le corps de Swamp Thing, et ça nous fait un espèce de Black Swamp Thing. Mais c'était un Swamp Thing qui n'est pas à l'Ecoland. Tu vois, oui. Le concept, c'est assez étrange. Bref, bon, c'est la grosse baston. Je vais pas tout révéler, mais parce que il y aura beaucoup trop de spoil. En tout cas, on a des gens qui ne vont pas s'en sortir. On a aussi des gens qui vont arriver, certains vont mourir, d'autres vont ressusciter. Lesquels, ça je vous laisserai découvrir.
Voilà, il y a du retour aussi.
Il y a du retour, ouais, voilà. Et puis, on a pas mal de nouvelles intrigues pour le futur qui sont posées à la fin de cet épisode.
Mais est-ce que globalement, ça a répondu aux questions que tu te posais sur Brightest Day ?
Non, pas toutes. Franchement, pas toutes, quoi.
Moi aussi, hein, ça m'a un peu déçu.
Voilà. Tu l'as lu ?
Oui, ouais. Aussi.
Ouais.
Oui, oui.
Et voilà. Alors par contre, on a une dernière page qui est quand même franchement cool. Je vais pas du tout la spoiler, je vais juste vous donner un ou deux petits indices. On en a parlé dans les news la semaine dernière.
Ouais.
Voilà. On dira pas plus. En tout cas, ouais, voilà. Il y a un nouveau statu quo pour certaines personnes. On a, je vais juste révéler ça, par exemple. C'est un des trucs qui m'intéresse quand même relativement. C'est, ce fameux compte à rebours que découvre Firestorm à la fin.
Encore un, d'ailleurs, j'allais dire. Encore un compte à rebours. Encore un nouveau countdown vers une nouvelle crise, peut-être.
Et puis, on va bien sûr avoir dans les prochaines semaines le Brightest Day Aftermath, qui vont peut-être répondre à certaines questions encore. Globalement, la série a bien démarré, je trouve. Et puis, il y a quand même des baisses de régime de temps en temps, quoi.
Il y a des baisses de régime et...
Il y a des très bonnes parties et des moins bonnes parties, quoi.
Ouais. Et puis cette fin, qui est en demi-teinte pour moi, qui répond pas à tout. Ouais. Et qui est un petit peu étonnante pour les gens qui ne s'y connaîtraient pas vraiment en DC, qui auraient lu Brightest Day, et ils vont se dire à la fin, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces gens?
C'est sûr.
C'est dommage. C'est dommage.
C'est un petit peu dommage, ouais, parce que, faut dire que là, il y a un aftermath qui nous attend. Donc peut-être qu'on aura les réponses dans l'aftermath. Mais, quand même, quoi. Je veux dire, à la fin de Brightest Day, on espérait avoir toutes les réponses. C'est pas le cas.
Le problème, c'est que voilà, faut vraiment s'y connaître pour comprendre tout ce qui s'y passe. Parce que pour qui découvre l'univers DC avec Brightest Day, il va être perdu. Alors que Generation Lost, tu peux arriver à suivre en étant néophyte.
Mais ce qui est ça qui est... paradoxalement, finalement, j'ai préféré la fin de Generation Lost que la fin de Brightest Day. Alors qu'au départ, je n'aurais pas parié un copec sur Generation Lost. Même si on avait la promesse d'une bonne histoire, je veux dire, Brightest Day m'intéressait beaucoup plus.
Ah ouais. Moi c'était l'inverse, tu vois. Dès le début, j'aimais bien le sujet de Generation Lost. Franchement, j'ai été... C'était comme l'apparition des Thunderbolts dans l'univers Marvel. Je trouvais le concept vraiment novateur et intéressant.
Disons que ce sera quand même un bail, parce qu'il faut avoir la fin de cette histoire.
Oui, totalement.
Et puis cette histoire va lancer d'autres trucs. Mais, voilà quoi. Je suis quand même mitigé sur l'ensemble de la série. Il y a de très bonnes choses, mais il y a des choses quand même un peu moins bonnes. Bon voilà, on verra. En tout cas, que ce soit Generation Lost ou Brightest Day, pour moi on n'a pas encore atteint le niveau de 52.
Non.
Qui restera pour moi la meilleure série hebdo que DC ait pu faire.
Oui, mais je pense que ils vont avoir du mal à un jour le dépasser, quoi.
Il y a quand même des putains de scénaristes, quoi. Il y avait Jones, il y avait Wade, il y avait Morrison, il y avait il m'en manque un, Greg Rucka, voilà. Donc c'était quand même quatre gros scénaristes qui travaillaient de concert. Et ça donnait quelque chose de franchement cool.
Oui.
Bien, voilà. C'est la fin de ces séries. On va partir sur autre chose. On va bientôt arriver sur Flashpoint. Voilà.
Dans deux semaines.
Ouais. A-t-on commencé à atteindre, je sais que je le répète assez souvent, mais Geoff Johns commence-t-il à nous montrer ses limites? À trop vouloir gérer le personnage? À vouloir trop faire et trop gérer le DC proper, le DC Universe?
Le DC proper.
Ouais, je... Voilà, à trop vouloir gérer le DC Universe, peut-être est-il en train de s'éparpiller un peu trop et bah finalement que certaines choses commencent à tomber un petit peu à l'eau. On verra bien. On verra bien. C'était ma crainte sur World of the Green Lanterns. Il m'a prouvé que voilà, c'était très bon. Là, Brightest Day, je suis un petit peu déçu. On verra bien pour Flashpoint.
Ok. Mais je te suis en tout cas. On verra. Qui vivra verra. Allez, hop, c'est la conclusion. on continue. Enfin non, on termine.
On termine. Avec rien du tout.
Avec le rappel.
Ah oui.
Retrouvez-nous.
Oui, bah vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur Twitter, bien sûr. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur le site. Vous pouvez nous envoyer des emails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et juste une petite précision. Quelqu'un nous avait envoyé un mail cette semaine avec une question. On a eu un petit souci sur notre boîte mail et du coup nous n'avons plus le mail, donc nous ne pouvons pas le lire. Donc si cette personne pouvait nous renvoyer le mail, ce serait vraiment très gentil de sa part.
Voilà. D'accord, et moi je l'aurais aperçu celui-là.
Non, on a eu une couille sur la boîte et du coup on a perdu les mails de cette semaine. Voilà, désolé. Donc je ne sais plus du tout qui nous l'avait envoyé, je suis franchement désolé. Donc si jamais il peut nous renvoyer le mail, voilà, ce serait vraiment très gentil pour qu'on puisse le lire et répondre à cette question. Sur ce, le mot de la fin, Denis.
Peut-être, oui. Alors, il y a eu des mots de la fin déjà de Sam et Nono, donc je vais écourter. Mais juste pour dire que dans les mots-clés, les mots de recherche, nous avons Comic City, On et Bunny, continue le back-office. 3 points d'exclamation.
Eh bien, voilà.
Eh bien, donc c'est dit et c'est fait d'ailleurs, puisque je continue à le regarder, évidemment, avec beaucoup d'intention. Et il y a aussi un On et Bunny niveau 26. je ne sais pas.
C'est peut-être ton niveau d'expertise en blague.
Peut-être. Bah, si c'est sur 100, il faut encore que je progresse.
Quel est le niveau max? Va savoir. Est-ce 50? Est-ce 80?
Bah, faut que je demande à Sam. Faut surtout que qu'il travaille mes blagues, alors, du coup. Puisqu'il y a quand même eu cette révélation extraordinaire aujourd'hui. Voilà. Bon, du coup, voilà. Honey Bunny, niveau 26, vous dit à la semaine prochaine. Peut-être pour un niveau 27.
Bien. Eh bien, Steve, niveau inconnu. Moi, je suis un boss élite. Les fans de MMORPG comprendront. Pas toi, donc.
Non, voilà, je d'accord, très bien, boss élite, si tu veux.
Un world boss élite, ouais.
Enfin, ça m'a l'air très balèze quand même, dit comme ça, un world boss élite.
Ouais. Que même à 40, tu me downes pas, quoi. Bien, oui, je vais arrêter de dire des conneries, et puis vous souhaiter une bonne semaine. Et bien sûr, à la semaine prochaine.
Ciao à tous!